On est en train de continuer notre petite série sur la recherche de Dieu. Il y a toutes sortes de points à développer. Quand on se met dans la position de quelqu'un qui cherche Dieu, mais il y a des choses qu'il faut faire, des choses qu'il ne faut pas faire, si on veut le découvrir. Où est-ce que je vais chercher? Le premier endroit où est-ce que je dois chercher pour comprendre ce que Dieu veut qu'on fasse? D'après vous, quel est l'endroit, la première place qu'il faut que je regarde? Dans la Bible. Pourquoi que c'est dans la Bible qu'il faut que je regarde? Tout a été dit. C'est les plus belles paroles, la plus belle réponse qu'on n'a pas. Maintenant, si quelqu'un dit, « Ah, ben moi, je ne sais pas ce que Dieu veut, ce que Dieu aime, ce que Dieu aime pas, que lui conseillerez-vous? » Commence à lire. C'est la meilleure affaire. Faut y aller à la base. C'est comme quelqu'un, tu veux l'installer, il commence un nouvel emploi sur une nouvelle machine qu'il connaît pas. Peut-il la faire fonctionner? Pas du tout, c'est une nouvelle machine. Qu'est-ce qu'il a besoin pour arriver à faire marcher cette machine-là? Il y a un mode d'emploi. Il faut que tu y ailles, le mode d'emploi. Si tu le lis pas, tu risques de partir des pitons avant où ce qu'il faut pas, puis d'oublier d'en allumer quelques-uns, puis ça va marcher à l'envers, si tu vas risquer de la briser même. Mais la vie, c'est comme ça. Même la vie spirituelle. Dieu veut nous révéler les choses cachées, les choses les plus grandes et plus précieuses qu'il n'y a pas sur cette terre. C'est bien beau de dire, « Oh, je pourrais avoir de l'argent, je pourrais avoir les secrets de telle et telle chose. » Ça sert à rien. Quand tu meurs, tu n'emportes rien avec toi. La seule chose qui est importante, c'est d'être sauvé puis d'avoir le maximum de bénédictions qui va venir de la part de Dieu. Le reste, c'est tout secondaire puis même tertiaire et quaternaire. Les premières, la priorité, la chose la plus importante, c'est de connaître Dieu, puis de vouloir en avoir plus de ce qu'il a à nous donner.
Amen.
Gloire à Dieu. C'est pour ça qu'on est là, dans le but d'apprendre à connaître Dieu, à connaître ce qu'il aime, ce qu'il aime pas. La recherche de Dieu, c'est le titre du message, nous amène à persévérer dans la mise en pratique de sa parole. Puis vous allez voir pourquoi que c'est important quand que tu dis que tu cherches Dieu, tu vas apprendre à connaître Dieu, tu veux vivre des choses avec Dieu, bien, il est important que tu fasses attention de la manière que tu marches sur cette terre. On peut pas se permettre tout ce que tout le monde fait autour. La Bible nous enseigne de pas marcher selon le train de ce monde. Le train de ce monde sont ignorants de la vie de Dieu. Puis ils marchent à l'aveuglette, puis ils marchent vers le chemin large et spacieux qui mène à la perdition. C'est pas ce chemin-là qu'on est appelé à marcher. Quand tu deviens chrétien, tu veux changer de vie, tu veux qu'il te libère de tes péchés, puis tu vas combattre contre tes faiblesses charnelles, tes tentations, toute ta vie. Tant que tu vas être dans un corps, tu as à combattre, tu as un chemin à marcher, à rester fidèle, afin de continuer à être connecté avec Dieu. Tu dis que tu veux chercher Dieu, mais il faut que tu trouves le chemin qui t'amène à demeurer en Dieu. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, commence par s'intéresser à ce que Dieu dit, ce que Dieu a dit. T'as beau dire, « Oh oui, j'aime Dieu! » Le gars, il dit, « Tu connais-tu comment faire pour être sauvé? » »« Ah, c'est pas important, ça. J'aime Dieu. Tu sais-tu que Jésus... » »« C'est pas ça. Moi, j'aime Dieu. » T'as beau dire, t'aimes Dieu, ça suffit pas. Faut que tu connaisses ce que Dieu a te dit pour que tu rentres dans la porte. C'est qui la porte?
Jésus.
Fait qu'il faut que tu le saves. Et pour le savoir, faut que tu apprennes à écouter. C'est ce qu'on a vu mercredi. Faut être prompt à écouter. Faut être prêt à écouter. Puis il faut même avoir le goût d'écouter puis vouloir savoir ce que Dieu a dit. Oh, à dire. Fait que si tu dis que t'aimes Dieu, mais ça commence par t'intéresser à ce que Dieu a dit. Où est-ce que je vais aller? Le premier endroit, on l'a dit tantôt, c'est dans la Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu. Ce que Dieu a dit, c'est inclus dans ce livre-là qui est la Bible. Un amoureux de Dieu s'attachera à ce que Dieu a déclaré. Comme on l'a déjà pris l'exemple, tu te maries avec quelqu'un, tu aimes la personne. Le minimum, c'est comme pour entretenir ta relation avec cette personne-là, c'est d'apprendre à connaître cette personne-là. Faut que tu apprennes à l'écouter, puis faut qu'elle t'écoute. La relation, elle se bâtit avec l'intérêt qu'on va avoir un vers l'autre. Si on n'est pas intéressé à écouter puis à vouloir entendre ce qu'elle a à dire, ou le contraire, si les deux se chicanent tout le temps puis ils s'écoutent pas, il n'y a pas de relation intime qui va se développer. Ça va être, j'ai hâte de sortir de la maison, ça presse. Faut que je me trouve de quoi faire. C'est ça qui va arriver. On va chercher à fuir notre foyer si on n'est pas heureux, si on n'est pas capable de se parler, si on n'est pas capable de s'écouter. C'est ce qu'on a vu un peu aussi mercredi, quand d'être lent à écouter. Un prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Il faut être prompt à écouter, il faut être prêt à écouter l'autre. Mais si tu veux développer une relation avec Dieu, tu as soif de Dieu, tu en veux plus de Dieu, il faut que tu apprennes à écouter Dieu. Tu vas t'attacher à sa parole. C'est la première chose, parce que tu veux plaire à Dieu, tu veux faire ce qu'il te dit, ce qu'il te demande, puis là, tu vas être heureux. Puis en plus, tu vas garder ta relation avec lui. Lorsqu'on recherche Dieu de tout notre cœur, c'est de chercher à marcher d'une manière qui lui soit agréable. Parce que il y a des fois, on marche pas d'une manière qui lui est agréable. Dieu, il est pas tout le temps fier. Par défaut, là, dans notre vie, là, si on se laisse aller comme qu'on est au naturel, Dieu est pas tout le temps fier de nous voir aller. Il y a des choses que Dieu aime, que Dieu aime pas. Mais savez-vous que Jésus lui-même, il a fallu qu'il apprenne à marcher d'une manière pour plaire à son Père. Jésus le dit dans Jean 8, le verset 29. Il dit, « Celui qui m'a envoyé est avec moi. » C'est qui a envoyé Jésus? Son Père. Dieu le Père a envoyé Jésus sur la terre. Ça veut dire que Jésus existait auprès de Dieu le Père avant de venir sur la terre. Il dit là, « Le Père m'a envoyé. » Fait que Jésus est venu en forme humaine. Il dit, celui qui m'a envoyé, il est avec moi. Ça veut dire que Jésus avait toujours une communion avec son Père. Puis, en continuant le verset, il ne m'a pas laissé seul. Jésus a toujours gardé sa communion avec son Père. Il dit, celui qui m'a envoyé, il est avec moi, puis il ne m'a pas laissé seul. Jésus marchait de façon à conserver sa relation avec son Père. Puis regardez par quelle raison que Jésus a dit ce verset-là. Il dit, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Et là, la condition. Pourquoi que Dieu le Père était toujours avec Jésus, puis il a jamais laissé Jésus? Parce que Jésus a toujours marché d'une manière qui était agréable à son Père. Et il est là le secret. On veut-tu développer une relation avec Dieu le Père de la même façon que Jésus l'avait, sa relation? Il n'y a pas de relation plus grande avec le Père que celle que Jésus a eue avec son Père. Pourquoi? Parce que Jésus, il marchait à 100% selon une manière agréable à son Père. Il était continuellement en communion parce que Jésus avait appris qu'il fallait qu'il obéisse en toutes choses. Il s'est rendu obéissant, Jésus. Amen. Comment un disciple de Jésus peut-il vraiment démontrer au Seigneur qu'il l'aime? C'est important de le savoir. Comment est-ce qu'un disciple de Jésus, c'est nous, on peut démontrer à Dieu qu'on l'aime? En le suivant, en faisant sa volonté. Mais c'est d'apprendre sa parole afin de marcher d'une manière agréable. Jésus dit, « Mon Père ne m'a jamais laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Mais nous, si on veut développer ce même contact-là, il faut marcher de façon agréable à Dieu. Dans Éphésiens 5, le verset 10, ça nous le dit. C'est à nous à faire le travail. C'est sûr, le Saint-Esprit va nous guider, il va nous aider, il va nous enseigner. Mais il y a quelque chose qu'on doit faire. Éphésiens 5, 10 et 11, ça dit, « Examinez ce qui est agréable au Seigneur. » Où je dois aller pour faire cet examen-là? Dans la parole de Dieu. Faut que je regarde ce qui est écrit. faut que j'examine, faut que j'apprenne, faut que je sonde, faut que je médite, faut que je réfléchisse, faut que je regarde en profondeur. Si je la lis pas, je le saurai pas. Si je vais pas écouter les messages qui prêchent sur la parole de Dieu, on le saura pas. Mais ça nous dit, examinez ce qui est agréable et, il y a un « et » là, il y a deux choses qu'il fallait faire dans cette phrase-là. Premièrement, l'examen pour apprendre. Deuxièmement, prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Là, on a des décisions à prendre. On a des actions à faire pour dire, j'accepte plus de vivre de cette façon-là, j'arrête, je veux plus rien savoir de ces péchés-là, c'est des œuvres des ténèbres, je veux plus rien savoir de ça, moi, je veux savoir ce que Dieu en me dit, là, on va lire la Bible, on va l'apprendre, on va examiner ce qui est agréable, puis après ça, on participe plus aux œuvres des ténèbres. Il s'est dit des dénoncer, des dévoiler, des déclarer, de le dire, ça, c'est du péché, moi, je touche pas à ça. Fait que tu veux marcher d'une manière qui est agréable, tu veux y montrer à Dieu que tu l'aimes, mais examine sa parole puis résiste au péché. Tu vas avoir une vie qui va plaire à Dieu.
Amen.
Amen. Amen. Gloire à Dieu, on veut cette vie-là, une vie qui plaît à Dieu, une vie qui est agréable à Dieu. Dieu y aime et il s'approche davantage vers ceux qui marchent dans sa parole. On le sait, le verset Jean 3,16, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Oui. Dieu a tant aimé le monde. Dieu aime le monde. Mais est-ce qu'il aime tout le monde égal? Oui, non, oui. Ça dépend. Oui, voyez-vous, il y a peut-être des « ça dépend ». Puis on va voir quelque chose. Dans ce verset-là, ça dit « Dieu il aime le monde ». Mais dans Jean 14, 23 et 24, vous allez voir que Dieu il a différentes intensités d'amour. Il affectionne particulièrement certaines personnes, plus que d'autres. Vous allez le voir. Jean 14, 23, Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, ça veut dire, si on est en amour avec Jésus, là, avec Dieu, il gardera ma parole. » Oups. « Si vraiment j'aime Dieu, je vais garder sa parole. » Ça veut dire, je m'en éloignerai pas, je vais essayer de tout faire pour qu'elle soit ici et là et que je mette en pratique. Je vais garder sa parole, c'est de la lire, de la méditer, de la comprendre puis de l'appliquer. Tu gardes sa parole. Le contraire de ça, si je dis que j'aime Dieu puis je suis pas intéressé de lire la Bible, je suis pas intéressé d'apprendre ce que Dieu dit, on est en train de montrer à Dieu qu'on l'aime pas. Ça veut dire, là, il nous dit, si quelqu'un m'aime, il va garder ma parole, et mon Père l'aimera. Pourtant, Dieu, il aime tout le monde. Comment ça se fait que là, dans ce cas-là, particulier-là, Dieu va l'aimer? Mais c'est parce qu'il faut sous-entendre qu'il y a différentes intensités d'amour. Je suis sûr que si je vous le demande, vous allez dire, oui, j'aime plus mes enfants que les enfants du voisin.
C'est vrai. Oui.
C'est pas mal. Vous pouvez aimer les enfants du voisin, mais en temps normal, on aime plus nos enfants. Si on n'a pas souffert, là, si c'est pas des méchants, notre amour est là. Je suis pas prêt à dire que tous les humains sur la terre ont un amour inconditionnel pour leurs enfants. L'amour, il y a différents degrés. Il y a différents degrés dans l'amour. On peut aimer beaucoup, on peut aimer un peu moins ou un peu plus.
Passionnément,
il y a la folie, mais on peut haïr aussi, qui est le contraire d'aimer. Là, on veut rejeter, on veut se débarrasser. Fait que entre l'échelle d'aimer à la folie, passionnément, puis d'aimer, puis après ça, haïr, l'échelle est large, parce que tu peux haïr plus une personne qu'une autre. Mais Dieu, là, il aime tout le monde. Là, je vous apprends rien. Il est en colère contre certaines personnes. Ça, c'est écrit dans un autre passage que ceux qui ont rejeté le Fils, la colère de Dieu demeure sur eux. Et dans ce verset-là, ça nous dit que si on garde sa parole, parce qu'on aime le Père, on garde sa parole, il dit « Mon Père l'aimera ». Ça sous-entend un amour plus particulier, comme un amour d'un père envers son enfant. Dieu aime tout le monde, mais c'est pas tout le monde qui sont des enfants de Dieu. Mais ceux qui ont passé par Jésus, puis qui gardent la parole, sont particulièrement choyés, chouchoutés, bénis par Dieu. Dieu nous aime plus à cause qu'on a accepté Jésus-Christ. On a aimé son Fils, on a aimé son œuvre à la croix, on aime son sacrifice, on aime sa parole, on aime les frères et sœurs. Bien, il y a un amour qui s'est développé, là. Cet amour-là, c'est l'amour qui fait qu'on va être favorisé par Dieu. Ça nous dit, si quelqu'un il garde ma parole, mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, puis nous ferons notre demeure chez lui. Voyez-vous que la relation, là, est beaucoup plus proche. Si tu aimes Dieu, puis tu veux garder sa parole, Dieu va venir s'installer chez vous, dans ta maison. Dieu va être là. Des fois, on aimerait mieux qu'il ne soit pas là, parce que si on vit tout croche, c'est gênant. Savoir que Dieu est là et est en train de nous voir. Puis là, il dit au verset 24, « Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. » Fait que les paroles que Jésus nous a enseignées, ça venait de Dieu le Père. Fait que si tu aimes les paroles que Jésus a dit, puis tu veux les mettre en pratique, tu es en train d'aimer les paroles de Dieu. Fait que là, Dieu, il dit, il va nous aimer, puis il va venir s'installer chez nous. Fait que là, il faut comprendre qu'il y a une manière de vivre qui nous sépare de Dieu, puis il y a une manière de vivre qui nous rapproche de Dieu. Comme une manière flagrante qui nous sépare dans Isaïe 59, le verset 2. Ça nous dit, « Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. » Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face puis l'empêchent de vous exaucer. Dans ce passage-là, on est en train d'étudier la recherche de Dieu. Là, il dit, c'est nos crimes qui nous cachent sa face. On veut chercher Dieu, mais nos crimes nous cachent sa face. Si on pêche, on est en train de mettre un mur entre Dieu et nous, puis ça nous empêche d'être exaucés dans nos prières. Fait que là, ce verset-là, ça s'adressait aux enfants de Dieu, aux Juifs, au peuple choisi de Dieu. Puis là, le prophète leur a dit, vos péchés, ça mène séparation entre Dieu et vous. Fait qu'il y a une manière de vivre, une fois que tu es chrétien, qui peut faire que si tu vis comme ça, en pratiquant des péchés volontairement, puis en te repentant pas, mais tu es en train de mettre une séparation entre toi et Dieu, puis tu es en train d'empêcher Dieu de t'exaucer à cause de tes péchés. Puis le contraire de ça, il y a une manière de vivre qui nous rapproche de Dieu. Dans Romains 14, le verset 17, ça nous dit, 17 et 18, « Car le royaume de Dieu, c'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. » C'est ça le royaume de Dieu. Si on arrive en tant que chrétien à marcher dans la justice, marcher dans ce qui est juste, ça veut dire obéir à sa parole. Si on marche dans la justice, puis on marche dans la joie, puis dans la paix, bien, c'est produit par le Saint-Esprit, cela. Il dit, celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu. Ça veut dire que tu peux être un chrétien, puis pas être agréable à Dieu. Jésus lui dit, « Mon Père est toujours avec moi parce que je fais ce qui lui est agréable. » Mais nous, on peut marcher de façon à ce qu'il soit agréable à Dieu ou que ça soit désagréable à Dieu. Il dit, « Si tu es capable de vivre dans justice, dans la paix puis dans la joie par le Saint-Esprit, mais si tu sers le Christ de cette façon-là, mais tu vas marcher d'une manière qui est agréable à Dieu puis approuvée des hommes. Le contraire de ça, si on respecte pas la justice, ça veut dire qu'on vit dans la désobéissance, que ce soit la désobéissance, un exemple, des péchés, carrément, désobéir contre les 10 commandements, on pêche, on déplaît à Dieu, Dieu trouve nullement cela agréable, il est pas fier, puis il dit que notre péché nous mène séparation. Puis après, on s'en va en plus, on sort dehors, on respecte rien, on dépasse les limites de vitesse, on saute les stops. Pensez-vous que les hommes vont nous approuver? Non. Pensez-vous que Dieu nous approuve? Non. Dieu veut qu'on marche dans la justice. Puis marcher dans la justice, c'est de pratiquer les œuvres justes, les choses justes. Pratiquer la parole, c'est juste. Pratiquer les lois des hommes, c'est juste. Il dit, celui qui sert Christ de cette manière, il est agréable à Dieu. Fait que si on veut rechercher Dieu, mais ça va nous amener à rechercher, à mettre en pratique la parole. Là, si tu mets en pratique ta parole, mais Dieu va trouver ça agréable. Il faut apprendre à marcher pour obtenir la faveur de Dieu. Ah, est-ce que je peux marcher d'une façon à attirer la faveur de Dieu? Oui. Dans Galates 1:10, ça nous en parle. Qu'il y a des gens qui, au lieu de chercher à la faveur de Dieu, ils cherchent la faveur des hommes. Parce qu'on est toujours face à des choix dans notre vie. Il y a des choix que, oui, je ne veux pas faire passer Dieu en premier. Il y en a d'autres qui vont dire, non, moi, je vais désobéir à Dieu, mais je veux plaire à ma femme, je veux plaire à mes enfants, je veux plaire à mon oncle, je veux pas que le monde pense mal de moi. Puis là, on se met à chercher à vivre de façon à plaire aux hommes plutôt que de plaire à Dieu. Si je veux obtenir les grâces de Dieu, il faut que je marche de façon qui plaît à Dieu. Il faut que je cherche la faveur de Dieu. Dans Galates, ça nous dit, « Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Est-ce que vous cherchez à plaire aux hommes, aux humains? Plutôt, est-ce que vous cherchez à plaire à Dieu? Est-ce la faveur des hommes qu'on veut ou la faveur de Dieu? » Paul, il dit dans ce verset-là, il dit, « Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Fait que là, t'arrives à un choix dans ta vie. Soit que je suis un serviteur de Christ, je sers Dieu, selon sa parole, je sers, je suis engagé, je marche. Soit que je cherche la faveur de Dieu en étant un serviteur de Dieu, ou soit que je cherche à plaire aux hommes, à chercher la faveur des hommes. Il faut comprendre, frères et sœurs, c'est quand même des choses basiques dans la foi chrétienne, mais il est important qu'on rappelle cela souvent, parce que c'est tellement facile d'arriver à dire, moi, j'ai plus le temps de lire la Bible. Moi, j'ai pas le temps de la lire ou de l'écouter. Ça m'intéresse pas. On pense que c'est pas important. Oui, c'est très important. Si on veut augmenter, si on veut marcher d'une manière qui plaît à Dieu pour obtenir la faveur de Dieu envers nous, mais il faut apprendre à aimer ce que Dieu a dit et à le mettre en pratique. Pour grandir là, dans notre foi, il est important d'apprendre puis de méditer la parole. Dans le psaume 119, le verset 11, ça dit, « Je sers ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Ça, c'est David qui a écrit ce psaume-là. Il dit, « Je sers ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Il y a un verset que j'ai oublié de lire au début, que dans le psaume 119 aussi, mais le verset 16, il dit, « Je fais mes délices de tes statuts et je n'oublie point ta parole. » Est-ce qu'on fait les délices des statues de Dieu? Pas les statues, les images taillées, là. Les statues, les déclarations, les commandements, les règlements, les principes de vie qui sont enseignés dans la parole. Est-ce qu'on est, on fait des délices? Est-ce qu'on trouve ça délicieux de lire la Bible? Ou on est tiède, puis on a perdu notre goût, notre feu qu'on avait de vouloir connaître les choses de Dieu. Mais quand tu réalises que ton cœur s'est refroidi, il faut que tu le demandes au Seigneur de rallumer ta flamme pour que tu aies une soif d'apprendre les choses de Dieu. Puis là, une fois que tu les apprends, tu sers la parole de Dieu dans ton cœur afin de ne pas pécher contre Dieu. C'est ce que le psaume nous dit dans le verset 11, psaume 119. Il est important de la lire puis de la méditer. Méditer, c'est réfléchir. Réfléchir sur la parole, ce qu'on apprend, ce qu'on entend des versets, afin que ça soit dans notre cœur. Parce que si on fait juste lire, souvent, là, ça nous rentre par une oreille puis ça nous sort par l'autre. Tu peux pas tout retenir ce que tu lis, mais pour avoir plus en mémoire ce que Dieu ce que tu lis, mais il faut le méditer. Il faut s'arrêter, il faut réfléchir, penser à ces versets-là, essayer de penser même de quelle façon que ça peut se mettre en pratique concrètement dans notre vie. Mais c'est ça de la méditation. Tu réfléchis sur ce que tu lis, puis tu veux l'appliquer dans ta vie. Parce que tu veux toujours, t'es toujours à la recherche de la, t'as une soif de Dieu, fait que tu vas t'appliquer à lire, à méditer la parole pour l'apprendre puis pouvoir la mettre en pratique pour marcher d'une manière qui va plaire davantage et davantage à Dieu. Pour arriver à être comme Jésus. Jésus l'a dit, tout disciple accompli sera comme son maître. Mais on peut arriver à vivre un mode de vie qui ne trébuche plus dans le péché. Bien ça, ça prend du travail, puis de la communion avec Dieu, puis de la prière, puis des efforts. Bien, si on se laisse aller, puis on ne prend pas le combat à cœur, ça, on va se faire entraîner, puis on va se faire charrier, autrement dit, charrier par toutes les convoitises que notre corps a face à ce monde. Puis il y en a des choses qui peuvent nous distraire, puis nous détourner. Pour qu'un chrétien grandisse dans le Seigneur, il doit se donner afin d'être transformé. C'est sûr que, humainement parlant, tu ne peux pas la mettre en pratique. Par toi-même, tu ne peux pas. Tu as besoin d'être renouvelé dans ton intelligence. Ça, c'est le travail du Saint-Esprit. Mais pour que le Saint-Esprit t'amène à être renouvelé dans ton intelligence, ben c'est le verset que je vais aller vous lire dans Romains 12, les versets 1 et 2. Ça nous dit de s'offrir à Dieu, de se donner à Dieu. Faut que tu pries, là, puis tu dis, Seigneur, je te donne ma vie. Puis ça, c'est rien que normal qu'on lui donne notre vie. Il a donné la sienne pour nous. On lui donne notre vie, puis on dit, Seigneur, viens me renouveler, viens me changer. Renouveler, ça veut dire, c'est une transformation complète pour penser de nouvelles manières. Parce que notre manière qu'on avait avant de venir au Seigneur était pas bonne. On était tous des pécheurs, on connaissait pas le plan de Dieu. Mais quand on est venu au Seigneur, le Saint-Esprit venant en nous, on est né de nouveau, on est une nouvelle personne, puis le Seigneur, il commence une œuvre de changement. Puis ça, il est important qu'on travaille avec le Saint-Esprit. On va lire la Bible, puis lui sert de la Bible, le Seigneur, pour nous enseigner. Puis là, il nous change notre manière de penser. Tu vois, avant, ça tournait comme ça. Là, quand on est venu au Seigneur, on tourne comme ça. Parce que ça tourne différemment. Tu penses plus comme tu pensais. Les choses que tu faisais ne te plaisent plus. Puis si les choses qu'on faisait avant nous plaisent encore, puis qu'on voit encore les mêmes choses, il y a un problème. On s'est peut-être pas repenti de ce point-là. Parce que si tu te repens, tu demandes pardon, le Seigneur va t'amener à t'en sortir. Amen. Romains 12, 1 et 2 nous dit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. » Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, c'est pas un sacrifice mort, ça veut dire qu'on s'offre pas à mourir, on s'offre à vivre pour Dieu. On veut vivre le reste de notre vie pour notre Dieu. Ça, c'est agréable à Dieu. Quand quelqu'un est prêt à renoncer à lui-même pour prendre sa croix et suivre Jésus, c'est que tu offres ta vie pour vivre pour Dieu. Ça, c'est agréable. C'est ce que ça nous dit. À offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. C'est agréable à Dieu. Dieu trouve du plaisir de voir des gens qui donnent leur vie pour suivre Jésus. Là, il dit, ce qui sera de votre part un culte raisonnable, c'est raisonnable qu'on s'offre à Dieu en culte, en sacrifice. On veut servir Dieu, c'est raisonnable. Lui a donné la sienne, nous, on lui donne la nôtre. Lui a donné sa vie à la mort pour nous, tandis que nous, on donne notre vie, on meurt à nous-mêmes pour vivre pour lui. Merci Seigneur, parce qu'il ne nous demande pas de mourir, il nous demande de vivre. Mais je vais vivre pour lui jusqu'à ma mort. Amen. Amen. On va vivre pour lui jusqu'à la mort. On va tous mourir, à moins que Jésus revienne avant puis vienne nous chercher. Puis là, ça nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Voyez-vous, on ne l'avait pas dans la tête ça, au début, ce qui était bon, agréable et parfait. On ne l'avait pas, là, cette connaissance-là. On vient à Jésus, tout croche, mais repentant. On lui donne notre vie, là, il commence à nous parler. Il sert de la Bible, il sert des enseignements, il sert de tout pour nous parler. Puis là, il nous montre ce que lui aime, ce qu'il n'aime pas. Plus que ça va, notre pensée change, puis là, on veut marcher dans ce qu'il aime. Puis là, on va marcher dans ce qui est bon, dans ce qui est agréable à Dieu, puis ce qui est parfait devant Dieu. Quand tu es rendu de même, quand tu marches dans ce qui est agréable à Dieu, ça plaît à Dieu. Jésus dit, mon Père ne me laisse pas seul parce que je fais ce qui lui est agréable. Fait que quand tu discernes ce qui est agréable puis que tu marches dans ce qui est agréable, ça plaît à Dieu puis Dieu ne vous quittera pas. Dieu va rester toujours à vos côtés. La seule moyen qu'il y a là, c'est si on débarque puis on dit, moi, je veux plus rien savoir, je veux retourner dans mes péchés. C'est là qu'il débarque Dieu. Mais Dieu veut pas débarquer, il veut rester avec nous éternellement. La promesse est pour qu'il soit avec nous éternellement. Il faut rester avec le Seigneur, il faut marcher dans ses voies. Si on trébuche, on demande pardon, puis on se relève, puis on est encore dans ses voies. Ça, c'est grâce à Dieu qui nous a renouvelé notre pensée. Avec quoi? Mais c'est le Saint-Esprit qui utilise la Bible, puis là, il change nos pensées. Puis ça nous permet de connaître ce que Dieu aime, puis là, on marche là-dedans. Puis c'est le Saint-Esprit. C'est à Dieu que revient toute la gloire de notre vie chrétienne. Si on réussit à se rendre à quelque part dans notre vie chrétienne, c'est parce que c'est Dieu qui nous a emmenés là par le Saint-Esprit, par la parole de Dieu, par les prières. Dieu nous a changé, il nous a renouvelé, il nous a donné la force pour marcher. Toute la gloire lui revient. David, qui est un homme selon le cœur de Dieu, on l'a vu la semaine passée, puis on l'a vu les autres semaines aussi. David, il marchait selon le cœur de Dieu. C'était un homme qui cherchait Dieu, puis il s'appliquait à sa vie, comme qu'on disait tantôt. Il est en amour avec les statuts, les principes, la parole, puis il ne voulait pas s'en détacher. Mais il a écrit le psaume 1, puis ça, ce psaume-là, on va juste le lire, puis on va voir que quand tu fais ce qui est écrit là, mais c'est la recette du secret, c'est le secret de la vie réussie avec Dieu. Vous voulez vivre de façon qui plaît à Dieu, qui est agréable à Dieu, que Dieu va vous bénir dans le maximum de votre vie, si vous faites ce qui est écrit là, dans le psaume 1, là, c'est un résumé d'une vie qui est accompli, qui est réussi avec le Seigneur. Dans le psaume 1, on va le lire, il y a juste 6 versets. Puis là, ça nous dit même en partant que tu vas être heureux si tu marches de cette façon-là. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. Voyez-vous là, il y a des choses qu'un homme ne doit pas faire. Chercher le chemin de la méchanceté puis des péchés, ça, faut fuir ça. Tu veux être heureux, mais dis, va-t'en pas dans ce chemin-là. Puis tu vas déjà commencer à marcher dans le chemin qui pourrait être heureux. Verset 2. Tu fuis certaines choses, puis ça nous dit, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Fait que, au lieu de marcher dans le péché, tu trouves ton plaisir à marcher, à connaître, premièrement, la loi de l'Éternel, la parole de Dieu. Là, tu vas la méditer jour et nuit. Tu vas réfléchir jour et nuit à la parole de Dieu. Fuis le péché, cherche à trouve ton plaisir dans ce que Dieu a déclaré, dans les paroles de Dieu. Quel fruit ça va avoir dans sa vie, une personne qui fuit le péché et qui cherche à connaître la parole de Dieu, le verset 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Wow! Voulez-vous réussir dans votre vie, dans tout ce que vous faites? Le secret est là. Fuyez le péché puis la méchanceté. Méditez la parole du Seigneur. Trouvez votre plaisir dans la parole du Seigneur pour en vouloir la mettre en pratique. Puis vous allez être des personnes heureuses, des personnes bénies. Tout ce que vous allez entreprendre, vous allez le réussir parce que Dieu va être avec vous. Verset 4. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes. Dieu voit tout ce qu'on fait. On ne peut pas y cacher rien. Fait que soyons vrais. Dieu nous voit, Dieu va nous bénir, parce que c'est dans sa parole. L'Éternel connaît la voie des justes, puis la voie des pécheurs mène à la ruine. Voulez-vous réussir dans votre vie? Attachez-vous à Dieu et à sa parole, puis Dieu va vous bénir, puis va vous faire réussir dans votre vie. En résumé, comme on l'a répété souvent, l'approbation de Dieu s'obtient en gardant ses commandements, en gardant sa parole. Dans Jean 15, le verset 9 et 10, Jésus qui parle, « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé, et dit demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. » Voyez-vous, le fait de demeurer dans l'amour de Jésus, il y a des conditions. Il faut que tu gardes ses commandements. Si on décide volontairement de devenir, mettons un exemple, adultère, puis vivre dans le péché, puis être voleur, puis d'être menteur, puis d'être un idolâtre, ou peu importe, ou convoiter les choses de notre prochain, ou d'haïr quand t'haïs, tu es un meurtrier, tu décides volontairement de vivre contre les commandements de Dieu, tu demeures plus dans l'amour de Jésus. Jésus dit, demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Jésus, lui aussi, a dû se soumettre aux commandements de son Père. Il a marché selon la parole de Dieu, puis il n'a jamais péché. C'est pour ça que son Père demeurait, que Jésus demeurait dans l'amour de son Père. Si Jésus aurait désobéi à un seul commandement, il aurait perdu sa communion avec son Père. La même chose que nous. Puis il dit, Jésus, c'est lui qui le dit. Il dit, c'est parce que j'ai gardé ses commandements que je suis demeuré dans son amour. Puis l'autre verset de tantôt, il dit, c'est parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. C'est pour ça que le Père a toujours resté avec moi. Il ne m'a jamais laissé seul. Mais si on veut garder l'intimité avec Dieu, la communion avec Dieu, la communion, ou en d'autres mots, si vous voulez être rempli du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu, si tu es à la recherche de Dieu, il est important que tu sois à la recherche de vouloir appliquer les commandements de Dieu dans ta vie. Parce que si tu pêches, tu brises, tu mets une séparation, puis là, après ça, tu vis seul pendant des bouts, tant que tu t'es pas repenti pour que tu sois à nouveau rempli. Comprenez-vous? La manière qu'on marche, ça a un effet sur notre communion. Autant de la manière qu'on agit avec notre épouse ou notre époux, ça a un effet sur notre communion dans le couple, mais avec Dieu, c'est la même chose. Voulez-vous atteindre une communion avec Dieu intense et remplie? Mais pratiquons la parole. Parce que Jésus dit, celui qui m'a pas pratique ma parole, puis il dit qu'il aime Dieu ou qu'il connaît Dieu, dans Jean, les épîtres de Jean, ça dit c'est un menteur. Puis même celui qui aime pas un frère et sœur, puis il dit qu'il aime Dieu, c'est un menteur. Parce que la parole nous dit d'aimer les frères et sœurs. Si quelqu'un y aime pas, c'est un menteur. La vérité n'est pas en lui. Fait que si les gens qui haïssent les autres sont des menteurs, puis Dieu n'est pas avec eux. Ils n'ont pas de communion avec le Saint-Esprit. Ils marchent dans la chair. Chaque commandement est important, frères et sœurs. Si on veut atteindre une communion avec Dieu, intense, remplie, comme par exemple, comme l'apôtre Paul, il vivait des moments intenses, des miracles, la puissance de Dieu était sur sa vie. Mais dans Philippiens 4:9, Paul parle à l'église de Philippe. Il leur dit, « Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, » ça veut dire que Paul lui avait prêché, là, puis il avait envoyé une lettre, là. Il lui expliquait un mode de vie. Et puis il dit, ce que vous avez appris, ce que vous avez reçu, ce que vous avez entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, ce qu'on a pu constater dans la vie de Paul comme une personne qui appliquait la parole, il dit, pratiquez-le et le Dieu de paix sera avec vous. Faut qu'on arrive à mettre en pratique la parole. Si on pêche, Dieu n'est plus là. Il dit, si tu le pratiques, ce que Paul vivait, Dieu va être avec nous.
Amen.
On le veut-tu?
Oui.
Amen. On en veut plus, on va sanctifier plus. Il n'y a pas de jeu à cela, il n'y a pas de menterie. S'il faut être vrai, il faut être franc. Si on pêche, il faut demander pardon. Puis si on a un péché qui est là, qui est tout le temps là, faut demander au Seigneur de venir nous renouveler notre intelligence. Faut que ça disparaisse. Puis il va l'enlever, parce que la gloire vient de lui, vient pas de nous. C'est lui qui fait l'œuvre. Y a-tu des choses positives comme résultat lorsqu'on s'engage à obéir à Dieu? Oui, il y a des belles promesses dans la parole. Tantôt, je l'ai dit, je n'ai dit une. Tout ce qu'il fait lui réussit. Mais si vous voulez la réussite dans votre vie, dans tout ce que vous entreprenez, mais il faut marcher dans la parole de Dieu. Voici quelques promesses pour ceux qui marchent dans sa parole, dans la parole de Dieu. Moi, vous en donner deux versets dans Apocalypse 3:8. Jésus parle à son Église. Il dit, « Je connais tes œuvres. » Jésus connaît nos œuvres, on ne peut rien y cacher. Puis, si on est franc, là, il nous parle tous. Si tu es né de nouveau, si tu lui appartiens, non seulement il te connaît, mais ça fait longtemps qu'il te parle pour changer ta vie, la mienne. Il me parle régulièrement, puis il me montre souvent des affaires qu'il n'aime pas. Jésus nous dit, je connais tes œuvres, puis cette personne-là à qui c'est adressé, là, mais c'est un béni de Dieu. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole. Là, c'est une promesse parce que cette personne-là marchait volontairement à vouloir obéir au Seigneur. Et que tu n'as pas renié mon nom. Et j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Ça revient un peu à l'autre verset, j'ai dit tantôt. Tout ce que vous allez faire, vous allez le réussir. Mais là, il dit, parce que tu gardes ma parole, tu n'as pas renié mon nom, et je mets une porte ouverte devant toi. Jésus lui-même rouvre les portes, puis personne ne peut fermer ces portes-là. Vous avez, comme si vous avez carte blanche, Dieu vous dit, « Go, avancez, vous allez réussir. » Merci Seigneur. Marchons dans sa parole, puis Dieu nous promet l'ouverture des portes, puis tout va marcher, parce que Dieu est au-devant de nous. Alléluia. Dans le même passage au verset 10, il y a une autre promesse donnée à ce personnage-là qui marche dans sa parole. Et au verset 10, ça nous dit, « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » Non seulement il nous rouvre les portes, mais en plus il nous dit qu'il va nous garder. Parce qu'on veut marcher dans sa parole, puis on veut rester fidèle à sa parole, il va nous garder lui-même, puis il nous tient. Il n'y a personne qui va pouvoir nous enlever de là. La tentation, il y a une immense épreuve qui s'en vient pour le monde, c'est déjà commencé. Puis la séduction est là, les gens se font tromper, puis abandonnent la parole pour s'attacher aux idoles, puis ainsi de suite. Il y a ça va venir encore plus fort comme épreuve jusqu'à temps que l'Antéchrist arrive, puis que là, il interdise la foi dans le monde. Puis là, ça va devenir des églises secrètes. Puis ça va être difficile, puis il y a du monde qui va se faire tuer dans beaucoup de pays. Ça va venir un temps difficile. Mais à cause qu'on persévère dans sa parole, il a dit qu'il va nous garder à l'heure de la tentation. Il va nous garder dans la foi, puis il va nous donner de persévérer jusqu'au dernier souffle. C'est ça que ça veut dire. Il va être avec nous, puis il va nous donner la force de passer à travers ce qui aura été traversé. Puis il va être avec nous en nous ouvrant les portes. Puis peu importe ce qui arrivera, il va nous garder dans la foi. C'est-tu pas beau? Moi, je veux faire partie de ceux qui vont être debout lorsqu'il reviendra. Pas de ceux qui ont abandonné pour se perdre, de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Prions. Père Seigneur, je te remercie pour ta parole qui est vraie, ta parole qui nous montre le chemin, qui nous donne la soif à vouloir en avoir plus, de vouloir plus être en communion avec toi, plus de tes bénédictions. Seigneur, tu as des promesses exceptionnelles pour ceux qui sont fidèles, ceux qui marchent dans ta parole, ceux qui t'obéissent, qui obéissent à ta voix. Seigneur, rends-nous capables de vivre de façon à ce que ce soit agréable. Renouvelle notre intelligence. Enlève notre vaine manière de penser qu'on avait dans nous-mêmes. Tout ce qui reste tout ce qui reste à changer dans nos vies. Prends tout, Seigneur. Prends ma vie, je te donne en sacrifice pour obéir, pour marcher, de marcher de manière qui te plaît. Seigneur, garde-nous, protège-nous, ouvre les portes. On veut rester en communion avec toi. Merci de ce que tu vas faire dans nos vies, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia.